Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hissez la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Forward. Forward. Drift into the right level.
Tout le monde est à son poste.
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Aujourd'hui, la Maison Blanche a mis en ligne les photos de Barack Obama en 2014, une rétrospective de l'année. Et il a un super service de communication, le président américain, ça donne vraiment envie de voter pour lui. Là, on le voit détendu, les pieds sur la table basse, ici chasser une mouche à l'aide d'un journal ou avec une couronne de princesse à 8 ans sur la tête au milieu d'autres mini-princesses. Il pose à côté d'un lapin géant, il joue au billard, on le surprend faisant mourir de rire ses deux chargés de com, ou alors prenant des enfants ou des koalas dans ses bras. Ou encore avec une Michelle Obama semblant posé perpétuellement pour la une de Vogue. Après ça, un peu jaloux, direction le site officiel de l'Elysée et la sélection des photos du président. Et là, oh, une photo du président avec Laurent Fabius, une autre avec Aquilino Morel, avec le pape. Bon, on s'ennuie un peu. Finalement, le plus cool, ça reste celle avec Barack Obama.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, nous recevrons Speed Art. Le chanteur Reggae Raga organise la release partie de son deuxième EP au T-Rock Coco jeudi prochain. Il sera en studio avec Double B, son Selecta, vers 19h30. Mais avant, nous allons parler de l'égalité à l'université, comment favoriser la mixité des filières, comment faire pour que les filles ne se retrouvent pas qu'en lettres et les garçons aux sciences physiques, comment briser le plafond de verre et, plus étonnant peut-être, comment faire cesser le harcèlement sexuel à l'université. On en parle tout de suite.
Même au 21e siècle, l'orientation se fait souvent en fonction du genre.
On est rentré dans des stéréotypes où on mettait donc les hommes dans une case et puis les femmes dans une autre.
Les formations littéraires et tertiaires pour les filles, les filières scientifiques ou industrielles pour les garçons, la faute aux idées reçues et au manque d'informations.
Bonjour Sabrina Septi. Un petit micro, voilà, merci. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission égalité à l'Université d'Angers depuis 2012. Et en fait, vous luttez contre les inégalités, que ce soit entre les hommes et les femmes, mais en fait, entre tout le monde, quoi. Toutes les inégalités,
exactement.
C'est bien
toutes
ça
les, tout ce qui peut être perçu comme une inégalité, que ce soit au niveau des étudiants, au niveau du personnel. Quand je parle des étudiants, il y a notamment les étudiants étrangers qui rencontrent quand même beaucoup de difficultés. Voilà.
Alors ce soir, si vous le voulez bien, on va axer la discussion plutôt sur les inégalités entre hommes et femmes à l'université. Il y a la première journée nationale des chargés de mission égalité des universités qui a lieu à la rentrée. Et elle avait pour sujet trois axes que j'aimerais aborder avec vous ce soir. Le premier concerne l'égalité professionnelle dans les universités françaises. Et là, on évoque le personnel en fait de l'université, les différences entre les hommes et les femmes au sein du personnel de l'université. D'abord, j'aimerais savoir si cette inégalité au sein de l'université, elle est différente que dans le milieu professionnel en général, ou est-ce que c'est la même ?
Je pense que les inégalités existent à tout niveau, dans toutes les entreprises, qu'elles soient publiques, que ce soit des entreprises privées ou que ce soit un service public. Ce qui se passe à l'université, c'est qu'il y a tellement de catégories, il y a tellement de hiérarchies, il y a tellement de corps différents qu'il s'opère une inégalité, pas que entre hommes et femmes d'ailleurs, entre femmes et hommes d'ailleurs, je dirais plutôt, puisque par ordre alphabétique, mais aussi entre personnels, quoi. C'est déjà un problème qui est accentué pour les femmes qui ont quand même beaucoup moins d'accès à des postes de responsabilité.
Effectivement, il y a différents, on peut appeler ça des corps de métier au sein du personnel. Il y a les enseignants-chercheurs et il y a ce qu'on appelle BIATS. C'est le personnel non enseignant de l'enseignement supérieur qui regroupe les bibliothécaires, les ingénieurs, les administratifs, techniciens, personnels sociaux et de santé. Déjà, entre ces catégories, il y a des inégalités.
Entre les deux catégories, oui, bien sûr, il y a des différences entre ces deux catégories. Elles ne sont pas régies de la même façon. Voilà, l'administratif doit être là de telle heure à telle heure. Un enseignant doit être là pour son cours, ça c'est sûr, mais n'est pas obligé d'être à l'université à 8 heures pile. Enfin, il y a déjà une différence là-dessus. entre les deux catégories, ce sont pas les mêmes façons de gérer le... Comment dire, s'il doit y avoir une sanction, c'est pas du tout de la même façon. Les sanctions ne vont pas être, ça va pas du tout être les mêmes. La section disciplinaire va être pour les enseignants-chercheurs. Pour les biats, ça va passer par toute une autre, enfin, par un autre biais. Donc il y a déjà une différence de traitement entre un biat et ou une biat et un enseignant-chercheur ou un enseignant.
Et au sein même de ces corps de métier, il y a encore d'autres discriminations. Il y a ce qu'on appelle la discrimination verticale qui concerne la hiérarchie, puis la discrimination horizontale qui concerne le champ disciplinaire ou alors le secteur, que ce soit administratif ou technique. Et c'est une discrimination qui forcément est marquée par le genre. Enfin forcément, c'est pas logique, mais ce sont les faits. On va commencer, si vous le voulez bien, par la discrimination verticale, la question de la hiérarchie à l'Université d'Angers, même si la charte de l'égalité a été signée en octobre 2013, si je ne me trompe pas. Il y a encore des efforts à faire, puisque j'ai noté qu'au conseil d'administration, bon, ça va encore, il y a 12 femmes sur 30 membres. Mais en revanche, si on prend le comité scientifique, il y a 13 femmes sur 36 membres. Et au sein du comité de direction, la SAPI, il y a 2 femmes sur 11 membres. Comment on explique ça ?
On l'explique, hein, c'est très compliqué, on l'explique par plusieurs raisons, de toute façon, enfin voilà, déjà première, c'est que les femmes ne sont pas toujours sollicitées, et que quand bien même elles le sont, elles peuvent l'être, hein, je pense qu'elles l'ont été plusieurs fois, elles sont trop peu nombreuses, hein, à certains postes et elles sont sollicitées dans beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de commissions, il y a un conseil du FR, il y a des commissions, de partout. Donc là, elles vont être encore plus sollicitées avec la loi sur la nouvelle loi qui impose la parité dans les recrutements des enseignants-chercheurs. Donc il nous faut 40%, donc elles vont être encore plus sollicitées. Et elles ne peuvent pas être partout, quoi. C'est ça aussi le problème, c'est qu'on manque de vivier, quoi. On manque de vivier et elles ne vont pas forcément, elles sont aussi prises par d'autres charges aussi. Hein. On sait bien qu'un homme va quand même plus facilement aller sur des responsabilités, va quand même gérer d'une façon différente sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et donc, une femme ne va pas avoir les mêmes facilités.
Il y a une espèce de plafond de verre, une autocensure quand on est une femme à l'université ou ailleurs d'ailleurs.
Tout à fait, parce que par exemple, ne serait-ce que les dossiers de promotion, simplement les personnes qui répondent pour demander une promotion, les femmes demandent beaucoup moins leur promotion, alors que ça n'implique pas grand-chose. Et soit elles oublient, soit elles se disent que c'est pas le plus important, alors que bon, le taux pour les hommes est quand même beaucoup plus important, quoi. Là, je ne vais pas dire systématiquement, mais assez souvent le faire, quoi.
Et comment ça va se passer alors pour instaurer cette parité ? Vous parliez de 40%. Comment est-ce que ça va être envisageable ?
Eh bien, c'est en ce moment, hein, c'est en ce moment que les commissions sont en train d'être validées. Donc, on va bien voir ce qui va se passer. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des problèmes, c'est que dans certains secteurs, il n'y a pas du tout de femmes. C'est le problème qui se pose. Évidemment, il n'y a pas de femmes puisqu'elles n'ont pas accès. Enfin, il y a beaucoup moins de femmes qui deviennent professeurs. Alors que pour rappel, un enseignant, il y a quand même beaucoup de grades dans les enseignants. Qui peuvent être enseignants-chercheurs, maîtres de conférences, habilités à diriger des recherches, professeurs d'université. Il peut y avoir aussi des enseignants qui viennent du secondaire, ce qu'on appelle les PRAG et les PRCE, professeurs agrégés, professeurs certifiés. Il peut y avoir des titulaires, il peut y avoir des contractuels qui viennent en plus, hein, des vacataires. Enfin, vous voyez, ça fait quand même énormément de... Et donc, dans les commissions de recrutement, par exemple, pour recruter un professeur d'université, il faut des professeurs. Or, le taux des professeurs est très faible pour les femmes. Donc, c'est pas forcément évident de trouver des femmes qui vont pouvoir siéger dans ces commissions. En sachant qu'assez souvent, il y a des personnels extérieurs. Donc, ça peut permettre de jouer sur justement cette parité.
Et puis j'imagine que ça dépend aussi des champs disciplinaires. Et là, on arrive à cette ségrégation dite horizontale, c'est-à-dire que les femmes sont statistiquement en fait plus amenées vers les lettres, les sciences humaines, les sciences sociales, et puis les hommes vers ce qu'on appelle les sciences exactes. Alors, à l'université d'Angers, les filles constituent 77% des étudiants en lettres et sciences humaines, et elles sont moins de 30% dans le domaine des sciences fondamentales. C'est les statistiques qu'on peut retrouver sur votre site internet. Comment est-ce qu'on explique ça ? Est-ce que c'est un penchant ? Comment on explique ce penchant ? Ou alors est-ce que c'est une obligation ? Enfin, une obligation enseignée ? Ou quelque chose qu'on dit aux jeunes femmes et aux jeunes hommes, quoi ? Vous êtes plus fait pour les maths ou vous êtes plus fait pour les lettres ?
Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que là, l'université est un petit peu moins responsable dans le sens où il nous arrive déjà et que tout le travail, si je peux parler comme ça, tout a été fait depuis la maternelle, je dirais même la crèche. Hein, comme vous regardez dans ces périodes de Noël, les façons de choisir les jouets, les magasins de jouets, c'est quand même très très présent dans notre société. Donc c'est déjà l'orientation, on travaille avec justement les conseillers d'orientation, il y a tout un travail, il y a quand même une prise de conscience de ce problème vraiment important des filles au moment de l'orientation, hein, qui est plus, je dirais, beaucoup plus en lycée. On a déjà ce problème, alors qu'elles sont en réussite, les filles ne vont pas se diriger forcément dans des filières scientifiques. Ça, c'est assez souvent, on dit assez souvent qu'un garçon ne va pas se poser le problème, va essayer de toute façon ce qui lui plaît. Une fille va se trouver que ça ne va pas être si facile que ça, qu'elle n'en est peut-être pas capable. Il y a quand même une autocensure qui est évidente, en plus du reste.
Et est-ce que ça change au fur et à mesure ou est-ce que c'est toujours un constat que vous faites depuis longtemps ? Ou est-ce que vous avez vu les choses évoluer là-dessus ?
Alors justement, avec les chargés de mission, hein, puisqu'on est quand même des chargés de mission, donc normalement maintenant, un ou une par université, par grandes écoles, enfin par école, en tous les cas dans le supérieur, qu'on se retrouve, c'est quelque chose qu'on constate, qu'au contraire, c'est même en train de régresser, quoi. Qu'on a même l'impression que oui, que c'est en train de régresser, qu'il y avait plus de filles auparavant qui accédait, que là, il y a une censure. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose. C'est pour ça que les missions égalité ont encore du travail et c'est le côté positif que de s'attaquer à ce problème-là.
Mais alors, comment est-ce que concrètement on s'y attaque ? Puisque c'est un de vos rôles de favoriser cette mixité dans les filières, comment est-ce que concrètement, alors vous menez des travaux avec les conseillers d'orientation, mais comment est-ce que ça se concrétise sur le terrain pour faire passer ce message-là aux lycéens ? Parce que ça se prend dès le lycée avec les admissions post-bac, c'est au problème-là.
Mais déjà, ça se prend même avant. Hein, donc, il y a déjà même une obligation de former les futurs enseignants et les futurs... déjà de les former à l'université sur le genre. Donc, d'avoir une unité d'enseignement sur le genre. Donc, à l'Université d'Angers, on a mis en place 2 UL, unités d'enseignement libre sur les discriminations, le genre et les stéréotypes et discriminations de genre, et une autre sur la diversité, une introduction à la diversité, de façon justement pouvoir un petit peu shooter dans ces discriminations, dans ces stéréotypes et ces discriminations. Donc, déjà commencer avec les futurs enseignants. Ensuite, faire un travail avec les conseillers d'orientation qui, je pense, ont une place vraiment prépondérante là-dedans. Et puis, ce qu'on a essayé de faire, alors on a aussi une liaison lycée-université, et d'essayer de travailler sur cette liaison, comment on peut justement amener les étudiants à venir. Donc on a fait, notamment l'année dernière, on a organisé un spectacle par la compagnie Piment Langue d'Oiseau. On a fait venir la compagnie à l'université et au centre Jean Villard, et on a fait venir des lycées professionnels justement pour discuter, pour voir déjà une pièce de théâtre qui racontait l'évolution d'une femme depuis sa naissance jusqu'à la maison de retraite, et pouvoir discuter de tous ces... Ce fut vraiment très très intéressant, les retours de lycéens, de lycéennes qui étaient... pas vraiment partant pour ce genre de choses, et ça a été vraiment, vraiment très, très intéressant. Et nous avons travaillé notamment avec des enseignants du secondaire, avec la région qui a voulu participer à cet événement, et avec justement l'université, on a un groupe de recherche qui travaille sur le genre et les discriminations. Le Jedi, voilà, sexiste et homophobe, et qui travaille d'ailleurs, qui a un gros programme de recherche, qui fait énormément de travail, et qui a aussi un travail de terrain, donc notamment, par exemple, ils s'attaquent à la... Enfin, ils doivent évaluer les dispositifs de lutte contre les discriminations à l'intérieur des lycées. Donc c'est tout un travail qui doit être fait, qui est en train d'être fait en ce moment, et qui est financé en partie par la région. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important. Et au niveau des lycées, je sais qu'il y a déjà des actions mises en place. Il me semble qu'il y a un prix pour les lycées, un prix justement sur l'égalité, sur comment on essaye d'orienter les filles, comment on essaye de faire venir des filles, même dans des filières de mécanique, parce que ça se passe aussi dans l'autre, dans certaines filières où c'est pas facile non plus pour une fille de se retrouver dans une filière... les stéréotypes, c'est pas facile pour sa famille, pour son entourage, pour elle quand elle est au quotidien, et pouvoir aider ses filles à faire ce qu'elles ont envie de faire, et pouvoir aussi dire aux garçons d'aller aussi dans les autres filières de lettres et de où ils sont moins nombreux.
On va continuer à discuter avec vous, Sabrina Septi, juste après To Bunny is in Love avec Duchesse.
Radio Campus Angers.
Et ce soir, nous sommes en compagnie de Sabrina Septi, chargée de mission égalité à l'Université d'Angers. Et maintenant, j'aimerais qu'on évoque une de vos missions qui peut surprendre au sein de l'université, à première écoute, il s'agit du harcèlement sexuel. En fait, vous avez d'ailleurs animé une table ronde sur le sujet en novembre. En juin 2013, il y a un rapport sénatorial qui a été consacré à l'égalité à l'université et qui soulignait que les violences sexuelles demeurent une réalité largement occultée dans l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment lors des études doctorales. Comment est-ce qu'on explique ça, en fait ? Le fait qu'il y ait du harcèlement sexuel à ce moment-là, précisément, des études.
Alors, d'abord, il faut dire qu'il n'y en a pas forcément qu'à ce moment-là. Il y en a aussi en première année d'université, ça peut arriver. Il y en a aussi au niveau du personnel, entre le personnel. Il y en a aussi entre étudiants. C'est quelque chose qui arrive à tous les niveaux. Ce n'est pas confiné à la relation doctorant, doctorante et enseignant, encadrant. Ça, c'était une première chose. Après, je voudrais quand même minimiser aussi les faits. C'est quand je dis ça, on a l'impression, oh là là, attention, à l'université, il n'y a que des harceleurs, des harceleuses. Non, ce n'est pas du tout le cas, évidemment. Même si c'est une minorité, il faut quand même que ce soit dit, il faut quand même que pas laisser les gens en souffrance. Et c'est pour ça, c'est l'intérêt d'en parler et c'est le côté positif de ce qui se passe en ce moment. Même si ça existe, au moins la parole commence à se libérer, la parole commence à venir, les gens commencent à en parler, commencent à dire qu'il y a des problèmes, il y a des choses qui vont pas, et c'est tant mieux. Alors pour les doctorants et leurs encadrants, le problème c'est qu'il y a une relation très particulière qui se pose entre un doctorant et c'est une relation déjà de dépendance, que la majorité ne vont pas en profiter, mais c'est très facile d'en profiter puisque une doctorante ou un doctorant, puisque ça peut aussi être un garçon, va se retrouver dépendant financièrement, va se retrouver par rapport à sa carrière, puisque sa thèse va dépendre de son directeur ou sa directrice de thèse. Pour ses papiers, éventuellement, si c'est un étranger ou une étrangère, pour le renouvellement de son titre de séjour, ça fait quand même énormément de choses. Après, il y a les conditions de travail. Un doctorant ou une doctorante va se retrouver dans le bureau ou au café ou chez lui. Enfin, les frontières sont très floues, quoi. Sont pas toujours bien. Et puis c'est compliqué, il y a une relation qui est particulière, quoi. C'est quand même aussi, c'est l'enseignant, c'est le référent, il y a une admiration quand même, assez souvent, je pense. C'est un petit peu compliqué, et s'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est-à-dire changer de directeur ou de directrice de thèse, c'est compliqué, les sujets sont souvent très pointus. Aller réclamer, aller dire, c'est s'exposer à ne pas être reconnu, ne pas être écouté. C'est bien souvent, c'est quelque chose qui n'arrive pas du jour au lendemain. Ça se met en place assez longuement et la personne va très mal. C'est compliqué, c'est difficile d'en parler, quoi. C'est pour ça que on voudrait justement montrer dans la table ronde ce qu'on essayait d'expliquer, qui est le plus possible d'entrée. Que ce soit par l'extérieur, que ce soit par le SUMS, le service de médecine préventive de l'université, que ce soit par son médecin, par le planning familial avec qui on travaille, qu'il y ait le plus d'écoute possible.
Et à quel moment on appelle ça du harcèlement sexuel ? Qu'est-ce qu'on appelle harcèlement sexuel ?
Alors, la loi définit très bien le harcèlement sexuel. Donc, il s'agit d'actes ou de paroles destinées à obtenir des faveurs sexuelles. Mais ça peut aussi être une répétition d'actes provoquant chez la personne un malaise, provoquant un sentiment de malaise, où la personne n'est pas très à l'aise par rapport à des blagues sexistes sans arrêt répétées, des propos, des fois des attouchements. C'est du harcèlement. Évidemment, il y a plusieurs catégories. On parle d'abord de viol, d'agression sexuelle, quand il s'agit de parties, quand il s'agit des fesses, du sexe de la personne. Et ensuite, ça peut être du harcèlement. Quelqu'un qui vient, même un professeur qui vient vous toucher sans arrêt l'épaule, ça peut être très, Moi, j'estime que c'est très problématique.
Est-ce que c'est un cas français, un mal français, le harcèlement sexuel à l'université? Je lisais que les forums Erasmus comportent régulièrement des avertissements dissuasifs sur les risques de harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur en France. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est effectivement quelque chose de français? Ou est-ce que ça se passe partout en Europe? Alors, même si c'est toujours difficile de généraliser, bien sûr.
La particularité de la France, parce que je pense que le harcèlement sexuel existe partout, hein, ça je crois que c'est bon, on peut aller voir aux États-Unis ce qui se passe, enfin je veux dire là en ce moment ils sont en train de même de, je crois que enfin, vous parliez de Barack Obama qui a parlé d'une loi sur les campus, ça va même jusqu'à des viols sur les campus, il y a quand même des gros problèmes, enfin voilà, c'est en Angleterre aussi, il y a quand même des choses qui se passent qui sont pas normales du tout. En France, la particularité est, comment dire, va être le problème de la sanction. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer d'un enseignant, d'un enseignant-chercheur qui est reconnu comme harceleur. Donc sur toute la France, on a eu plusieurs cas où les sanctions ne sont pas très très élevées. Donc il y a quand même une impunité. Il y a eu des sanctions, hein, il y a eu des protections de victimes, hein, puisqu'on est obligé de les appeler comme ça, mais il y a quand même un problème, une procédure qui est très très lourde à mettre en place, et la personne va être jugée par ses pairs, hein, donc c'est très difficile de juger un collègue, avec qui on travaille, avec qui on fait sa recherche, c'est très compliqué. Et le harcèlement, c'est toujours très difficile, comme vous le disiez, à définir, à monter des preuves, à monter tout un... C'est très, très délicat, surtout quand on se retrouve qu'en entretien, clos, fermé, que c'est parole contre parole, c'est très, très compliqué, quoi.
Est-ce qu'il y a déjà des étudiants qui sont venus vous voir? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous les orientez vers qui, d'ailleurs?
Oui, bien sûr. Hein. Donc les étudiants, ben, je les oriente vers la médecine préventive. Hein. Ça, c'est la première chose pour qu'ils aient une première écoute. Et je leur demande, on essaye de réfléchir, déjà définir. Est-ce que c'est... Bien souvent, ce sont des étudiants qui viennent, j'ai des personnes qui viennent et qui me disent qu'une amie leur est venue se plaindre à eux de tels problèmes. Qui ne sait pas si c'est normal. C'est ça c'est là où c'est grave, je trouve.
À quel moment, en fait, on vient de se plaindre, c'est ça? À quel moment la frontière est franchie, quoi? C'est ça la question qui revient.
C'est-à-dire que ce qui me choque, c'est que des étudiants souffrent et trouvent que c'est normal. C'est-à-dire que c'est ça qui va pas, quoi. C'est jusqu'où peut aller, enfin, jusqu'où on peut aller. Donc là, dans ces cas-là, je leur dis qu'on ne peut rien faire tant que voilà, la personne ne vient pas d'elle-même. Par contre, tout ce que disent les autres, les témoignages, tout ça, ça constitue un dossier. Qu'on parle d'ailleurs de faisceau d'indices concourants. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il faut monter un dossier, il faut monter des choses. La première chose qu'on me dit, oui, est-ce qu'on risque pas d'avoir du harcèlement sexuel pour pouvoir contrer une mauvaise note, pour avoir... sur ce que j'ai entendu, je pense que vu le malaise, vu le mal-être, je pense que c'est quand même très délicat. Enfin, vu ce à quoi on s'expose, ça me paraît quand même très difficile.
Quelle solution pourrait être mise en place pour pallier ce problème-là? Dans une interview, vous évoquiez peut-être des endroits destinés au travail entre le doctorant et le maître de thèse. Quelle solution pourrait être mise en place?
Oui, je pense qu'on est en train de réfléchir justement sur une charte de bonne conduite, une charte à respecter, à ne pas inviter à son doctorant chez soi, par rapport à sa thèse. Enfin, je veux dire, le travail, c'est dans un lieu de travail. On réfléchit justement à comment éviter ces situations qui posent problème. Et au niveau du ministère, ils réfléchissent aussi. Le ministère a mis en place des procédures délocalisées de tenue de section disciplinaire. de façon à ce que ça ne se passe pas dans l'université où est l'enseignant ou l'enseignante. Voilà, on essaye de réfléchir. Le ministère c'est vraiment, enfin, a décidé de prendre ce dossier en main. On essaye de réfléchir aussi à la mise en place de cellules de veille sur le harcèlement sexuel, où les personnes puissent venir parler. Déjà, que la parole puisse se libérer, c'est déjà énorme, parce que je pense que quand ça va être, enfin, quand les gens vont pouvoir en parler beaucoup plus librement, qu'il y aura pas cette omerta dessus, je pense que ça va déjà beaucoup diminuer. Je pense que ça sera déjà un grand pas. Et déjà que les gens ne restent pas chez eux, enfin pas bien dans leur peau, c'est déjà énorme, quoi. Qu'on puisse en parler aujourd'hui, je crois que c'est déjà un grand pas.
Merci beaucoup Sabrina Septi, chargée de mission égalité à l'Université d'Angers, d'avoir été dans le sous-marin ce soir.
Merci à vous. Enfin, au revoir.
Écoutez Cliché avec Shalom.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir Spidart.
Bonsoir.
Vous êtes chanteur de reggae raga et vous sortez votre deuxième EP, deuxième acte, jeudi. Et voilà. Pour ce faire, vous y allez à fond avec une release partie au T-Rock Coco.
Exactement.
Et en studio avec vous, WB, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ce qu'on appelle le Selecta. Alors moi j'ai appris le mot aujourd'hui, je suis peut-être ringarde, c'est le DJ en fait.
C'est un petit peu le DJ, ouais, c'est ça.
C'est ça. Le Spidart, c'est une technique qui consiste à montrer en accéléré une création visuelle. En quoi ça vous définit?
Oh, c'est une Spidart. Longue histoire, c'est une longue histoire, c'est un surnom que j'ai eu par rapport à un dessin il y a très longtemps, voilà, et c'est un surnom, je sais même pas si je pourrais retracer en gros l'histoire, ça remonte bien loin, et voilà, et c'est resté, et puis dans la musique, voilà, ça me correspond pas trop mal.
Quel rapport alors avec votre musique, en quoi ça peut se recouper?
C'est plus le personnage, on va dire.
Speed, c'est ça.
Ouais, voilà, super, super speed en général. Donc voilà, et bon, c'est un truc qui est resté. Et puis voilà, au final, on choisit pas forcément son blaze, son surnom. C'est comme ça.
Alors, votre style, ça s'apparente à une fusion entre raga éraillé et instru reggae plus traditionnel.
Ouais.
Comment est-ce que vous entremêlez les deux en fait? Comment ça se passe dans la création pour
C'est assez proche en fait, le reggae, raga, hip hop, tout ça, ça se mélange assez bien. C'est des styles de musique qui sont assez proches, qu'on retrouve de plus en plus là dans le reggae, les prods, les instrumentales qui sont faits en ce moment, qui voient le jour. Beaucoup de connotations hip-hop, donc voilà, c'est un mélange qui s'est fait un peu au fil du temps, moi mon projet il s'est monté un peu autour de ça. Moi, je suis un grand fan de reggae et voilà, je travaille avec WB qui est issu plus du hip-hop, donc voilà, mélange s'est fait un peu tout seul quoi.
J'allais vous demander justement, WB, quelle touche vous apportez vous dans ce projet là, quelle sonorité particulière?
Un peu comme lui quoi, mais un peu plus de hip hop et tout ça quoi. Je suis un petit peu dans, j'étais bercé comme il a dit dans l'hip hop et tout ça, et puis voilà quoi, je suis
c'est un peu le mélange,
c'est un peu
deux,
le mélange des deux quoi. Voilà, c'est un ça. Petit peu le mélange des deux quoi.
Il s'y retrouve un peu plus dans les instrus hip hop,
voilà.
Moi je m'y retrouve plus dans les instrus reggae. Après voilà, on choisit les instrus ensemble, on travaille avec des beatmakers en choisissant des coups de patte à gauche à droite, et c'est le mélange qui se fait un peu comme ça.
C'est le feeling,
un
quoi.
Peu tout seul quoi. Voilà. Ouais, voilà, ça s'est mis en place un peu tout seul en fait au final. Donc voilà, ça me convient bien, ça convient à tout le monde, ouais. À toute l'équipe, donc c'est plutôt cool.
Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble, WB et Spidart?
Un an, même pas.
Ouais, même pas un an, ouais. Quelques mois. Moi j'ai commencé avec d'autres Selecta, et voilà, on s'est croisés, ça fait des années qu'on se connaît maintenant, ouais. Quelques années. Et puis moi je cherchais un nouveau Selecta justement pour vraiment monter un projet... Un projet un peu plus perso qui me correspondait plus, et cette touche de hip-hop, puis même le personnage surtout, c'est ce qui est important. Il y a la musique, mais après on passe beaucoup beaucoup de temps ensemble, et voilà, faut s'entendre, faut que ça roule quoi.
On peut parler un peu de votre parcours, Spidart, avant de,
pas de soucis.
Continuer, parce que vous êtes également membre de United by Skankin, pardon.
Exactement.
Pour l'accent. Un autre projet musical avec Buzz.
Voilà, tout à fait.
C'est une rencontre de longue date, Buzz, je crois.
Ouais, ça fait une quinzaine d'années qu'on fait de la musique ensemble. On a eu des différents groupes. Pareil, on est amis aussi avant tout.
Un deuxième EP cette année?
Ouais, qui est enregistré, on est en train de finaliser tout ça, ça dort encore, c'est de côté pour l'instant, mais ça va pas tarder à voir le jour.
C'est ouais. Avec ce projet-là que vous êtes arrivé à la musique, ou est-ce qu'avant vous aviez d'autres projets?
Il y a déjà eu d'autres projets avant, avec Buzz, on va dire même tous les projets que j'ai eus en musique, ces 10 dernières années, on les a eus ensemble, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête au final.
WB, avant votre rencontre avec Spidart, c'était quoi votre parcours musical alors?
En fait, moi je viens de la région parisienne en fait, et j'étais dans le hip-hop, je faisais de la musique étant jeune, quoi, étant plus jeune, et on s'est connus, j'étais juste simplement public, quoi. On se rencontrait souvent dans les soirées sur Angers, reggae, tout ça, et puis voilà quoi, c'est de là que je me suis mis dedans avec lui, et puis voilà.
Moi je me suis dit, quitte à le voir tous les jours, autant qu'on fasse des trucs ensemble. Hein.
Autant bosser.
Voilà, autant bosser, autant que ça serve à quelque chose.
Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'un projet solo en parallèle de United by Skankin?
Alors United by Skankin, ça existait déjà avant en fait,
oui.
Et moi, j'avais envie d'un projet solo, déjà pour le côté un peu plus perso. Le côté un peu plus perso, il y a des choses que je ne me voyais pas forcément faire en groupe. Les disponibilités aussi. Il y a eu United Basking King, Buzz est parti sur Orléans. Donc voilà, au niveau disponibilité, c'était un peu plus compliqué. Là, on arrive à remettre tout ça en place. On a toujours, on a toujours été un peu séparés, en fait, au final, avec Buzz. Quand lui était sur Angers, moi j'étais sur Niort, des choses comme ça. Et puis voilà, moi je voulais un truc un peu plus perso, en fait, voilà, dire ce que j'ai à dire sur le moment, sans forcément rendre de compte non plus, parce que quand on travaille avec des gens, il faut que tout le monde s'y retrouve sur le projet. Et voilà, moi j'ai envie de foncer, en fait. Voilà.
Donc un deuxième EP qui sort jeudi, voilà. Un deuxième acte. Alors, il paraît que le deuxième album, le deuxième EP, il est plus difficile que le premier. C'est un lieu commun, ce que je dis. Ouais. Mais bon, j'essaie de savoir comment vous avez fait pour travailler sur ce deuxième projet.
Alors, c'est un peu plus particulier, en fait, parce que ce deuxième projet, au final, ce deuxième EP, il a été fait d'une façon complètement différente comparée au premier. Le premier, ça a été... Toutes les instruments ont été travaillés avec un beatmaker, avec Dr. H, qui est à côté d'Angers, qui a travaillé avec pas mal d'artistes angevins et du Mans aussi.
Du Mans, ouais.
Et là, ce deuxième EP, au niveau des instruments, ça a été travaillé avec un groupe qui s'appelle Please Turn Up. Le guitariste, c'est Buzz.
Donc okay, voilà, il y a toujours...
Exactement, ouais. Il y a toujours cette... Il y a toujours ce coup de patte... Enfin voilà, moi c'est quelqu'un, ça fait, comme je dis, ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble, ça se passe très bien et on essaie de rester connecté un peu sur tout ça. Même si c'est un projet solo, c'est quelqu'un voilà, qui est important dans le projet aussi, donc voilà, qui soutient, qui fait pas mal de choses aussi voilà, moi, pour mon projet. Il y a des textes qu'il a écrits, il y a des choses qu'il a composées, donc en l'occurrence là, des instrus avec les gars du groupe. Donc voilà, c'est un truc un peu différent au final. Parce que voilà, dans le sound system, c'est très instru, ce qu'on appelle MAO, fait sur PC et tout ça. Et là, voilà, c'est vraiment un côté groupe qui a été mis en avant. Quoi.
Quelles influences on peut citer alors? Si on pouvait citer des groupes, des noms d'artistes pour...
Voilà, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a énormément. Moi, je suis très reggae français. Je suis très, très reggae français. Et dans les artistes reggae français que j'aime bien, la liste est longue à choisir. S'il devait y en avoir quelqu'uns...
tu me regardes.
Ça lui de répondre, hein. La question elle est pour lui, elle est pas pour moi.
Il me regarde en genre démerde-toi. Non, des artistes reggae français que j'aime bien, il y a Lord Bitume, que j'aime bien, qui a eu pas mal de projets, pas mal de groupes, qui ont bercé cette évolution moi, que j'ai eue justement entre le reggae et le hip-hop. Après, il y a plein de. Je vais dire de vieux entre guillemets, mais il y a plein de chanteurs en place
anciens.
Depuis. Ouais, voilà, des anciens qui sont en place depuis très longtemps. Raga Sonic, c'est des trucs que j'écoutais quand j'avais 13-14 ans. Daddy Naughty, des choses comme ça. Ouais. C'est des artistes, moi, qui m'ont donné envie, en tout cas, de faire ça et d'aller dans ce sens-là, en tout cas.
Double B, à quel moment vous arrivez sur ce deuxième acte de Speed Art?
Comment ça? À quelle période?
Ouais. À quelle période? Est-ce que c'est pendant la préparation? Est-ce que c'est...
Non, c'était avant, c'était au avant, final. Ouais. C'était avant.
En fait, moi, je suis venu à la fin du premier acte. Quoi.
Voilà.
Il faisait la tournée de son premier EP. Moi, je suis venu à la fin. Et puis là, le deuxième EP, on l'a fait ensemble. Quoi. On a tout fait ensemble, pratiquement. Mm-hmm. Mis à part l'écriture, mais on a tout fait ensemble.
Les enregistrements, voilà. Il était derrière, assis, ouais. À faire des gros yeux. Voilà. Non, mais ouais, c'est on s'est rencontrés sur la tournée en gros du premier acte et donc il y a eu ce changement d'équipe et qui était pas très défini à la base au final et voilà, et moi j'avais besoin de mettre quelque chose en place vraiment carré pour vraiment avancer et j'avais besoin de recul aussi. Le recul, c'est pas forcément facile de l'avoir tout seul. Donc Buzz, lui, a permis aussi donner son avis, a permis de prendre un certain recul. Après, c'est pas un recul qu'on pouvait avoir au quotidien. Là aujourd'hui, voilà, W, lui, il est là tous les jours, en studio, il est là, à l'écriture, il est là, au choix des instrus, il est là. Donc voilà, le recul, il se fait un peu comme ça, quoi.
Et la release party qui arrive jeudi, grosse soirée,
j'espère,
avec cette sortie d'EP. La programmation comprend également The Truth and Right Song.
Voilà.
Ces trois selecta qui sont nantais.
Qui sont nantais.
C'est ça, c'est un selecta qui est nantais. En fait, c'est un groupe nantais, on va dire, entre guillemets, un groupe, quoi. C'est un sound system.
C'est un crew, quoi.
Un crew, quoi, voilà. C'est un crew, c'est un bon ami à moi, Dreddy. Et puis, pour la même occasion, on a profité pour le faire venir, pour qu'il puisse jouer avec nous un petit peu. Quoi.
Voilà, partager voilà. Ça entre potes entre aussi. Potes. Quoi.
Ouais, voilà, j'allais vous demander comment s'était passé le choix, mais en fait, c'est des potes.
Ouais,
quoi.
C'est juste ouais. Entre potes, quoi, c'est tout. Quoi. C'est,
on... Ouais, c'est... on voulait pas forcément se prendre la tête sur un, voilà, inviter des gens, savoir comment ça allait se passer. On voulait vraiment faire ça en... pas forcément petit comité, mais entre nous, en fait. Voilà, vraiment comité. Faire ça entre nous.
Ouais, voilà, entre potes, quoi.
Et comme ça, voilà, on se connaît, on sait que ça va bien se passer, même si ça aurait très bien pu se passer avec des gens qu'on connaît pas, ça, j'en doute pas. Mmh. Mais voilà, l'objectif, c'est... Pour nous, c'est un peu... C'est la fête, quoi. Voilà, ça sort, on fait la fête, on... Pour l'occasion de la sortie du CD, on est content d'être entouré de gens qu'on connaît et
fait,
voilà.
Trou de Salmoite, c'est le son système Angevin, quoi. C'est celui qui Nantais, excusez-moi. Ouais. C'est le son système Nantais, quoi. En fait, c'est ceux qui bougent le plus pratiquement sur Nantes et qui organisent des busy dance tous les mois, tous les premiers samedis du mois. Par la même occasion, le 7 février, on fête le birthday avec eux. On est invité là-bas à jouer.
Voilà.
Et puis voilà, quoi.
Et à quoi est-ce qu'il faut s'attendre jeudi? Alors ça va être la grosse teuf, on l'a compris.
Bah pour nous, ouais. Ouais,
et
ouais.
Comment ça va se passer? Alors vous allez jouer ça ensemble, va bien se passer. Vous allez jouer les uns après les autres
Bah alors l'organisation de la soirée, voilà, Trou de Saint-White va ouvrir le bal, voilà, en jouant, en mixant reggae, raga, hip-hop. On sait jamais parce qu'ils sont un peu tout terrain, quoi.
Ouais.
Ils sont un peu tout terrain, ils aiment bien réserver des surprises à gauche, à droite. Voilà, donc... comment ça va se passer exactement, on sait pas. On sait que ça va bien se passer. Mais non, mais voilà, en gros, ils vont ouvrir le bal voilà. Pour mixer. Après, nous, on va présenter voilà, ce deuxième acte, le nouveau show. Alors, il y a aussi des morceaux du premier acte, des choses qui sont jamais sorties et qu'on garde exclusivement pour le live. Donc, on va présenter tout ça. On a retravaillé un nouveau show, des nouveaux morceaux, des nouvelles approches, même des anciens morceaux qu'on a un peu revisités. Et puis voilà, on va présenter un peu ce nouveau projet. Et c'est un peu aussi, cette date, c'est un peu officialiser voilà, la combinaison Speed Art et W. Ouais. On a fait pas mal de dates avant, mais voilà, ça nous a permis en gros de nous apprendre à connaître voilà. Musicalement. Et là, voilà, à partir de jeudi, voilà, c'est parti.
C'est officialisé à Angers, quoi. C'est
voilà.
La première date que je fais à Angers, moi.
D'accord.
Ouais, avec Speed Art.
Exact.
Ouais.
Exact.
Et c'est le début de la tournée en janvier, puisque
exactement.
Vous avez un certain nombre de dates en janvier.
Bah, pas mal. Pas mal de dates. Ouais.
14, je crois.
Ouais, un truc comme ça, une quinzaine de dates sur janvier. Ouais.
Et si je me gourre pas, United by Skanskin fait la première partie de la tournée de Speed Art, c'est ça?
Voilà, première partie ou l'inverse, ça dépendra des soirées, comment ça va se passer. Mais
c'est pas un coup à devenir schizo, c'est un petit peu de ce...
je sais pas, on en reparlera fin janvier. Mais non, mais c'était aussi voilà, le plaisir de... Voilà, quitte à présenter... Ce projet, ce deuxième EP, autant présenter aussi United by Skanskin. On a fait des choses avant, on prépare des choses pour la suite. Bah voilà, quitte à être en vadrouille, autant faire ça en famille. Et puis ah. Voilà, donc c'est toujours un plaisir. Quoi.
C'est comme un peu pour Trou de Saint-White, c'est l'occasion qui a fait le larron. Et puis voilà.
Quoi, voilà, exactement.
On se fait plaisir, quoi. Voilà, c'est votre mois de janvier.
Voilà, c'est notre mois de janvier. Février, bah, c'est un peu. C'est ça se prépare un peu dans. Ouais, dans la même veine, quoi.
Toute l'actu s'est retrouvée sur la page Facebook.
Ouais, alors toute l'actu de janvier, on n'a pas encore tout annoncé pour février, pour la suite. Là, les dates sont bouclées jusqu'à mi-mars à peu près. Donc voilà.
En tout cas, l'actu chaude, là, c'est la release party du deuxième EP. Donc jeudi soir au T-Rock Coco à 22h, 21h30,
22h. 22h30,
22h, ouais. Entrée. En prix libre.
Exactement.
Et hop, un CD d'offert.
Voilà, les gens, ils donnent ce qu'ils veulent. Voilà, ils ont accès à la soirée, ils repartent avec le CD. Le but du jeu, c'est que le son, il tourne. Que, voilà, moi, j'avais pas forcément envie d'imposer un prix d'entrée. Les gens, ils font avec les moyens du bord. Les temps sont durs pour tout le monde. Les gens donnent ce qu'ils veulent. Voilà, comme ça, au moins, on n'impose rien. Chacun fait ce qu'il veut et ils repartent avec le CD tout pareil. Et puis, voilà, comme ça, au moins... On a le souvenir de la soirée.
On va se faire un petit avant-goût là tout de suite avec J'avance. Merci beaucoup WB et Speedart d'avoir été dans le sous-marin ce soir. Et puis donc à jeudi.
Eh ben il n'y a pas de problème.
Pas de problème.
Ça marche. Et puis au passage, donc nous on va remercier Radio Campus. Ouais. Et pour l'info, il y a une émission à Radio Campus d'Orléans, justement sur United Basking King et sur, sur mon projet aussi, donc qui est relayé en ce moment même, sera à la même heure là, sur Radio Campus d'Orléans.
C'est le lien Radio Campus.
Voilà, exactement. Il y a une grosse équipe sur Orléans, la Buzz est en place là-bas et on a une bonne équipe. On va y jouer là dans 3-4 jours.
Ouais, ce week-end.
Voilà, ce week-end, samedi et dimanche. Donc pareil, on va rencontrer l'équipe de Radio Campus d'Orléans.
Je vous dirai bonjour.
Eh bien, il n'y a pas de problème. Et puis, merci à eux aussi de soutenir ce projet. Voilà.
Bon, alors on va écouter J'avance et puis on se dit à jeudi.
Eh ben, il n'y a pas de souci.
Ça marche.
À jeudi. Ciao.
Essayant de garder la tête sur les épaules, sans jamais avoir à vendre mon âme, je traverserai la terre par les deux pôles pour défendre mes idées et combattre toutes celles que je condamne. J'avance, essayant de garder la tête sur les épaules, sans jamais avoir à vendre mon âme, je traverserai la terre par les deux pôles pour défendre mes idées, combattre toutes celles que je condamne. J'essaye d'abandonner mes vieux démons, mon passager noir qui m'a toujours accompagné sans rémission dans mon histoire, comme un poison qui ne cesse de couler dans mes veines et qui noircit le tableau de la vie que je mène. Mes rêves d'autre chose, d'une autre vie, d'un autre avenir, sont en idée qui s'opposent à mon envie d'oublier mes souvenirs. Mon cœur balance, partager entre deux sentiments, celui de tout quitter ou bien continuer à vivre comme avant. J'avance, essayant de garder la tête sur les épaules, sans jamais avoir à vendre mon âme, je traverserai la terre par les deux pôles pour défendre mes idées et combattre toutes celles que je condamne. J'avance, essayant de garder la tête sur les épaules, sans jamais avoir à vendre mon âme, je traverserai la terre par les deux pôles pour défendre mes idées, combattre toutes celles que je condamne. Mais pas de contradiction, non pas de mauvais choix. J'ai toujours su rester sincère et honnête à la fois. Quoi qu'ils se disent et quoi que certains pensent, je n'accorderai pas à leur méprise de cette subtile danse. Je m'obstine, quitte à payer les pots cassés, à rester fidèle aux convictions qui m'ont porté. Sans regret, sans remords, je ne me surprends même plus à rêver un peu trop fort un nouveau décor. Alors j'avance, essayant de garder la tête sur les épaules, sans jamais avoir à vendre mon âme. Je traverserai la terre par les deux pôles pour défendre mes idées, combattre toutes celles que je condamne. J'avance, essayant de garder la tête sur les épaules, sans jamais avoir à vendre mon âme. Je traverserai la terre par les deux pôles pour défendre mes idées, combattre toutes celles que je condamne. Mais toujours droit devant, paré pour l'action, avec pour seul le mot d'ordre de ne jamais perdre de vue nos ambitions. On prend la paix comme elle vient, quelles que soient les conditions. On ne déserte pas les terrains à la vue d'une complication. Faire front aux problèmes qu'on peut rencontrer, on ne cherche pas de solution qui servirait nos intérêts. Je ne suis pas comme tous ces loups affamés dans la bergerie, qui se font de pommes et nous pour mettre en place leur supercherie. Alors sans rancune, je repars les idées claires, la sérénité pour fortune d'un avenir plus sincère. Mais comme une fois n'est pas coutume et au risque de déplaire, je ne partirai pas sans plénitude pour ce que j'ai pu laisser derrière. Alors sans rancune, je repars les idées claires, la sérénité pour fortune d'un avenir plus sincère. Mais comme une fois n'est pas coutume et au risque de déplaire, non. J'avance, essayant de garder la tête sur les épaules, sans jamais avoir à vendre mon âme. Je traverserai la terre par les deux pôles pour défendre mes idées et combattre toutes celles que je condamne. J'avance, essayant de garder la tête sur les épaules, sans jamais avoir à vendre mon âme. Je traverserai la terre par les deux pôles pour défendre mes idées, combattre toutes celles que je condamne.
Vingt heures, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perme de ce soir, c'est le traditionnel bœuf blues au Terroc Coco, justement, on en parlait tout de suite. À 21h30, on termine avec l'éternel bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Tous les lundis à 20h, vous retrouvez Otros Mundos. Michel fait se promener des micros autour du monde. Et bien hier soir, c'était direction le Maroc.
Salam alaikum. Donc, on était parti de Zagora, direction le désert. Donc on s'est arrêté à Tamgrout, visiter une petite poterie traditionnelle, ainsi que l'école et la bibliothèque coranique. Ensuite, on a pris la piste jusqu'à Mahamid. Mahamid, dernière ville avant le désert. Ensuite, on a traversé une partie de la vallée du Dra. Donc, où on a pu voir palmeraies, oasis et puis petit village au milieu de nulle part. Donc, on a traversé le Djebel Bani, donc une chaîne de montagnes, et qui derrière renferme le désert. Pendant plusieurs kilomètres, on a roulé sur des déserts de pierre, puis de la petite dune avec des tamaris, quelques dattiers. On a mangé le midi dans une petite maison typique. Hein. C'était vraiment sympa. Et puis le soir, donc vers 5h, on est arrivé au pied de l'Erkshigaga, donc au pied de la grande dune qui fait 300 mètres de haut. Et donc cette ergue, elle s'étend sur 5 km sur 35 km. Donc on est monté en haut à dos de dromadaire, c'était bien sympa. Il y avait pas mal de vent et des nuages qui rendaient le paysage vraiment mystique. Du coup, coucher de soleil mystique en haut des dunes. Et puis on est redescendu, on a fait apéro bœuf musical avec Saïd, notre guide, et puis des gens qui étaient là-bas. Bien sympa. Ensuite, tagine, observation d'étoiles, et puis discute des traditions du coin avant d'aller faire une bonne nuit.
Vous pouvez réécouter la totalité du programme sur le www.radiocampusangers.com et dans un instant, dès 20h, vous retrouvez Sine Qua Non. Salut Jean Hitchcock.
Salut.
Alors ce soir, de quoi ça cause ?
Alors ce soir, on va parler de Miyazaki, qui est parti à la retraite en 2014, et on va essayer de lui trouver un successeur. La question, c'est: est-ce que Miyazaki est irremplaçable ?
Réponse donc à 20h, on verra qui est le successeur de Miyazaki tout à l'heure. Merci beaucoup Jean Hitchcock et bonne émission. Nous on se retrouve demain à 19h, nous recevrons les ambassadeurs des villes jumelées avec Angers. Merci à Thomas pour la co-préparation et puis à Rémi pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Trouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.